construire une piscine olympique et un gymnase dont les travaux doivent débuter avant janvier 2025. Une inspection du Conseil international des Jeux est par ailleurs prévue dans les prochains mois. Les infrastructures hôtelières doivent aussi être prêtes pour accueillir 300 participants de 14 disciplines différentes. Pour le président Azali Assoumani, le maître mot, c'est l'unité.
On a besoin d'actes plus que de paroles. On n'a pas droit à l'erreur. Et j'espère qu'on va mettre à côté nos tiraillements, nos contradictions et s'unir par rapport à cet événement qui va honorer le pays aujourd'hui et demain. Mais maintenant, le devoir, c'est de les accomplir avec réussite et surtout avec fierté.
Le président du comité nouvellement créé, Mohamed Ismaïla, n'a pas manqué de rappeler l'urgence face au temps.
Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est réunir toutes les équipes et fixer les objectifs. Il y a le facteur temps, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi l'organisation sportive elle-même.
Le défi est immense, mais pour les Comores, ces Jeux représentent bien plus qu'un événement sportif, une opportunité unique de briller sur la scène régionale et d'unir toute une nation. Abdelham Zembaba Moroni, RFI.
À Moroni, il est 7h43.
Afrique Matin sur RFI.
5h43 ici à Paris, à suivre la Côte d'Ivoire et la question de la préservation des traditions. Reportage dans la région de Boisflay, dans le centre du pays, où les vocations de sculpteurs de masques cérémoniels se font rares. On s'intéressera aussi à l'industrie du textile tunisien en plein renouveau, précisément dans le textile professionnel, c'est-à-dire les tenues de travail. Elle nous expliquera Alexis Bédu. Et on s'intéressera aussi avec notre invité à la région du Wadaï au Tchad, c'est-à-dire la région d'Adré, celle qui accueille la plupart des réfugiés soudanais qui ont passé la frontière depuis le début de la guerre au Soudan l'an dernier. Mais tout de suite, les sports. Les sports avec Sofiane Amazian. Bonjour Sofiane.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Du basket pour commencer. Début ce vendredi de la deuxième fenêtre de qualification pour le prochain Afrobasket l'an prochain en Angola.
Oui, les meilleures sélections du continent se sont donné rendez-vous à Dakar au Sénégal pour cette deuxième étape de qualification. Les Léopards de RDC vont partager le même groupe avec les Maliens, les Sud-Soudanais, meilleure équipe africaine, récent participant aux Jeux Olympiques de Paris, mais également les Marocains qui ont remplacé les Mozambicains forfaits à cause de la situation politique dans leur pays. Rolly Foula, le capitaine des Léopards, se dit confiant après une bonne préparation de sa sélection.
Nous sommes venus au Sénégal avec toute humilité, tout en respectant nos adversaires d'abord, premièrement, car nous, on garde en tête, nous devons atteindre notre objectif qui est de se qualifier pour l'Afro Basket 2025.
La préparation s'est très bien passée. On a fait quelques séances ensemble pour essayer de mettre en œuvre tout ce qui est mis en place par les coachs et pour créer entre nous la chimie pour vraiment avoir l'automatisme de tous les joueurs qui ont répondu présents. On a mis vraiment beaucoup d'énergie, la concentration pendant les séances d'entraînement. Et c'est à nous d'être vraiment présents sur le terrain pour aller chercher les victoires.
Rolly Foula interrogé par Olga Massangou, la RDC qui affronte le Mali pour son premier match, c'est aujourd'hui 15h temps universel.
Et autre sélection à suivre, celle du pays hôte de cette fenêtre de qualification, c'est-à-dire le Sénégal.
Mais direction la poule C, on le retrouve également le Cameroun, le Gabon, le Rwanda, de Sagana Diop, le sélectionneur des Lions de la Teranga, troisième au dernier Afrobasket, sait que son équipe a du boulot.
Pour le Rwanda, ils ont toujours eu une bonne équipe, avec un coach qu'on connaît, qui est coach Sersa et qui fait un bon boulot là-bas. Et ça fait des années sur les garçons et sur les filles. On va se concentrer sur nous parce que c'est un tournoi. On a seulement 4 jours à se préparer. En ce moment, on se concentre sur nous. Mais peut-être on va commencer à faire les vidéos et tout ça, remonter aux jours, les jours rwandais. Mais on sait que ce ne sera pas un match facile. Tous les matchs ne seront pas faciles parce que toutes les équipes sont ici pour gagner. Le Cameroun, comme tu l'as dit, c'est eux qui nous ont éliminés la dernière fois qu'on avait joué contre eux, à la finale en Nigeria. Ils ont une très bonne équipe, ils ont un coach que je connais très bien, qui est à la NBA Academy. Et ce ne sera pas un match facile, mais nous, on sera prêts pour les affronter.
Et de Sagana Diop avec Babacar Fall. Le Sénégal qui débute aussi ce vendredi sera face au Rwanda, coup d'envoi 18h temps universel.
Et dans le reste de l'actualité sportive, Sofiane, du football, tirage au sort aujourd'hui des phases de groupe de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines.
Et la CAN, initialement prévue en 2024, est organisée encore une fois au Maroc. Ce sera entre le 5 et le 25 juillet prochain. 12 équipes se sont qualifiées pour ce tournoi. Elles seront divisées en 3 groupes de 4 et les favorites sont évidemment bien là. L'Afrique du Sud, tenante du titre, le Maroc, vice-championne, et le Nigeria, nation la plus titrée. Tirage au sort prévu au centre technique Mohamed VI de Salé.
Et merci Sofiane Amazian, c'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce vendredi 22 novembre, c'est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le responsable du Hamas Mohamed Deif, tous les trois accusés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre et qui font l'objet de mandats d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale. Par ailleurs, Israël poursuit ses raids sur le Liban. Des frappes sur la vallée de la Beka, un fief du Hezbollah dans l'est du pays, ont tué 40 personnes d'après le ministère libanais de la Santé. Vladimir Poutine, le président russe, estime lui que le conflit en Ukraine a désormais tout d'une guerre mondiale et il prévient qu'il n'exclut pas de frapper les pays occidentaux. Ces menaces du maître du Kremlin qui interviennent après que la Russie a fait usage d'un missile balistique de portée intermédiaire conçu pour porter une ogive nucléaire hier. Et direction donc maintenant la Côte d'Ivoire, à l'heure du défi de la préservation de certaines traditions. Par exemple, dans le centre du pays, dans la région de Boisflay, la tradition de la sculpture de masques cérémoniels utilisés dans les danses populaires comme le Zaouli. Le dernier grand maître sculpteur dans cette région est mort il y a 3 ans. Et aujourd'hui, ceux qui lui ont succédé peinent à transmettre leur art à la prochaine génération. Reportage de Benoît Almeras.
En rythme effréné, une danse saccadée, un masque coloré, c'est la trinité du Zaouli. La cérémonie populaire anime les fêtes gourou. Sous un soleil de plomb et en costume rouge, le danseur arbore ce jour-là un visage écarlate surmonté de 2 biches, une scène au sens caché. Ces masques décorés, Samuel Irié Biwablé en sculpte chaque jour dans son atelier. Les pieds dans les copeaux, couteau en main, l'artiste façonne une pièce de bois.
Je suis en train de creuser actuellement l'arrière du masque. Ça, c'est un masque d'âme appelé Flali.
Samuel est l'héritier d'une lignée de sculpteurs. Le quinquagénaire exerce depuis plus de 30 ans, mais il n'a pas de successeur faute de moyens.
Compte tenu du fait que nous-mêmes, nous sommes livrés à nous-mêmes, si nous... Nous avions les moyens d'encadrer nos apprentis, nous allons le faire.
Et si les masques disparaissent, qu'est-ce qui se passe pour la tradition gourou?
La tradition disparaît. Sans le masque, il n'y a pas de tradition. C'est une chaîne. Il faut entretenir tout ça.
Cette crise des vocations préoccupe le directeur régional de la culture. Lui-même gourou, Mathias Goré-Biblan, veut valoriser ce patrimoine.
Quand il n'y a pas de transmission, il y a un frein qui s'installe. Donc ce que nous faisons ici dans la Maraoui, c'est d'essayer d'identifier tous nos praticiens, de les former à la transmission de leur art. Mais la transmission, elle est bien, mais il faut que ceux qui font vraiment cette pratique-là vivent aussi de leur art. Donc c'est de faire la promotion.
La promotion passe entre autres par les associations, parmi elles la Fédération du Zaouli. Gérard Trabitizier, l'un des responsables, a peur de voir sa culture disparaître.
C'est ce que nous ont laissé nos ancêtres. Si nous, à notre tour, on ne perpétue pas, qu'on laisse mourir, ça veut dire que nous n'avons plus de repères. Si les artistes vivent de leur art, ils vont insuffler de nouveaux souffles aux nouveaux pratiquants qui vont s'intéresser plus à la culture.
Et pour attirer la nouvelle génération, l'association compte sur des événements comme le Festival international du Zaouli. La première édition se déroulera du 4 au 8 décembre prochain à Boisflay. Benoît Almeras, Boisflay, RFI.
Et demain, le reportage Afrique sera au Cameroun, dans la région de l'extrême nord, où notre correspondant s'est rendu dans le camp de déplacés d'Ouro Dabang.
C'est un secteur traditionnellement dominé par les pays asiatiques, la Chine ou le Bangladesh par exemple. Mais dans le domaine du textile professionnel, c'est-à-dire la confection de tenues de travail, la Tunisie retrouve de l'allant, une croissance retrouvée, grâce notamment à une montée en gamme ces dernières années et grâce aussi à la proximité géographique avec l'Europe. C'est le dossier Afrique Éco, Alexis Bédu.
Ça c'est pour la police anglaise, ça c'est pour la garde nationale espagnole. Nous fournissons aussi la police en Allemagne et j'espère qu'on aura l'occasion d'attaquer un peu le marché français.
Conquérant Amor Mlika, il est directeur de 4 usines de production de vêtements de travail et de protection vers Nabeul sur la côte est du pays. La concurrence chinoise, plus compétitive au niveau des prix, a longtemps sapé les exportations tunisiennes, mais la proximité géographique de la Tunisie avec l'Union européenne a permis de renverser la tendance. Les clients veulent désormais un approvisionnement proche et efficace.
Pas mal de fournisseurs asiatiques, principalement pour les tenues de lutte contre le feu, ramènent des matières premières, des tissus européens, font la confection et renvoient. Donc, alors que chez nous, il y a moins de stock, moins de pression sur la liquidité, plus de réactivité, proximité même pour l'assistance technique. Tout ça, c'est des atouts qu'on a su mettre en valeur et nous adapter au contexte actuel.
Les certifications environnementales sont désormais une condition sine qua non pour exporter en Europe. Les professionnels tunisiens se sont donc mis à niveau, ils sont montés en gamme.
Nous avons aussi cette innovation, ce jean par exemple que vous voyez là, est un jean 100% imprimé. Donc c'est un jean qui consomme 98% moins d'eau qu'un jean classique.
Tarek Benajali est PDG du groupe Workman et vice-président de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement.
On a eu la possibilité de conquérir de nouveaux marchés, d'avoir de nouveaux clients et surtout d'aller vers le premium, vers une qualité textile technique. Donc ce n'est plus le basique, le pantalon 4 poches que personne maintenant n'ose porter, sinon les boîtes d'intérim et encore. Donc là on se rapproche plutôt vers le fashion, tout ce qui est stylé. Et ça devient plutôt du prêt-à-porter pour le travail, ce n'est plus du vêtement de travail.
Le prêt-à-porter au travail tunisien qui séduit aussi en Afrique, les contrats affluent, assure Tarek Benajali.
Nous, on vient de signer avec le gouvernement libyen, par exemple, pour habiller les 10 entreprises pétrolières étatiques libyennes, par exemple. On travaille aussi au Cameroun avec les mines de diamants et tout ça, mais je sais aussi qu'il y a pas mal de confrères qui travaillent et ils viennent même de certifier des combinaisons pour le nucléaire, par exemple.
Un secteur en croissance qui lorgne également vers la Russie, même si la Chine et le Bangladesh restent les premiers fournisseurs de l'Union européenne.
Alexis Bédu à Tunis, il est 5h54. Même heure à N'Djamena et à Adré. Comment la cohabitation se passe-t-elle dans l'est du Tchad entre les habitants de cette région du Wadaï et les réfugiés soudanais, notamment des Soudanais venus de la région du Darfour et qui fuient la guerre au Soudan depuis un an et demi? Un sujet que l'on aborde ce matin avec notre invité Afrique, Charles Bouessel, analyste pour l'Afrique centrale au sein de l'International Crisis Group, l'est du Tchad, qui depuis le début du conflit a vu 900 000 personnes passer la frontière, alors que la région en a déjà accueilli 400 000 lors d'un précédent conflit en 2003.
Absolument. On a pu voir justement pendant cette crise précédente des réfugiés quels risques l'on pourrait affronter pour cette actuelle crise, puisqu'on est dans un contexte à peu près similaire, mais avec une ampleur bien supérieure. À l'époque, déjà, on avait vu, au fur et à mesure de l'arrivée de ces réfugiés et rapatriés tchadiens, une augmentation des discours xénophobes. Les habitants de la région, même s'il faut saluer leur sens de l'accueil assez impressionnant, hein, parce qu'on parle quand même d'une augmentation de 50% de la population en quelques mois, ce qui est absolument considérable et difficile à concevoir. Mais malgré cela, voilà, on avait vu quand même le développement de violences sur les réfugiés, notamment ceux qui partaient chercher du bois aux abords des camps et qui se faisaient agresser. On voit ce genre d'agression se répéter aujourd'hui.
Et ça, ce sont souvent les femmes, hein ?
Absolument. Les femmes sont vraiment les premières personnes visées, d'abord parce que les femmes et les enfants constituent 89% des arrivées depuis le Soudan, et parce que les femmes sont souvent chargées d'aller collecter ce bois pour la cuisine à l'extérieur des camps. Donc, c'est un moment où elles sont particulièrement vulnérables. On a énormément, justement, de violences basées sur le genre, d'agressions sexuelles, etc. En ville, on entend aussi donc des discours de populations locales qui accusent les réfugiés de faire monter les prix de la nourriture, les prix des loyers. Et encore une fois, je salue donc les capacités d'accueil de cette région parce que ces violences sont encore très très limitées. Mais si la situation continue de se dégrader, on risque d'avoir une augmentation de ce genre d'agression entre nouveaux arrivants et populations locales.
Charles Bouessel de l'International Crisis Group, l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Entretien complet à écouter dans une heure et à retrouver sur RFI.fr. We'll be right back. Et comme tous les vendredis, c'est le moment où l'on retrouve Charlotte Ntamack, la parlotte de Charlotte. Vous nous dites ce matin, Charlotte, qu'il y a des amitiés qui comptent plus que la famille.
Oui, saviez-vous qu'il existe l'amitié en famille comme il existe la famille en amitié? Lorsqu'on parle de famille, d'aucuns croient qu'il s'agit exclusivement de personnes liées par le sang. Et lorsqu'on parle d'amitié, il y en a qui pensent à tort qu'il s'agit de personnes avec qui on n'est pas apparenté. L'amitié en famille, c'est cette amitié avec un membre de la famille qu'on choisit comme ami. Moi, je ne joue plus avec Papitou. Dès qu'on fait quelque chose, il part toujours nous crailler chez papa. Alors que toi, tu connais garder les secrets. C'est toi mon ami, c'est toi mon ami. La famille en amitié, c'est cette amitié fraternelle avec cet ami qu'on prend comme un frère ou cette copine dont on fait une sœur. C'est l'adoption du frère ou de la sœur qu'on n'a pas eu ou le remplacement du frère ou de la sœur qu'on a. Le frère ou la sœur en amitié, c'est cet ami qui mérite tellement votre confiance au point de devenir un plus que frère ou une plus que sœur. Le plus que frère est un ami à qui vous pouvez faire plus que confiance. L'argent que tu cherches là depuis, voici ça. Comme tu étais déjà sous là, j'ai pris ça pour garder. Comment toi aussi tu peux boire comme ça jusqu'à perdre conscience alors que tu as les millions sur toi? La plus que sœur, c'est cet ami à qui tu peux faire une confiance plus qu'aveugle, même lorsque tu as le dos tourné. Tu dis que quoi? Tu aimes qui? Tu es même normal? Tu sors avec ma copine et tu oses me faire des avances? Hein? Que ce soit la dernière fois, tu m'as bien suivi. Hein? Le plus que frère est un frère qui devient plus que ton frère, à tel point que ton propre frère se sent comme un moins que frère. Vous me voyez alors les choses. Il confie son chantier à son ami, pendant que moi, son frère, je suis là. Oui, même si j'avais mangé son argent la dernière fois, ça fait quoi? Si tu ne manges pas l'argent de ton frère, tu vas manger pour qui? La plus que sœur est une sœur qui prend le dessus sur la vraie sœur, à tel point que la sœur ne se sent plus comme une sœur. Façon que ma sœur et moi, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Je lui dis de m'envoyer ses papiers pour que je voyage. Elle envoie à sa copine. Oui, même si j'avais arraché son gars ici au pays, on avait lavé le linge sale en famille. Elle a peur de quoi? Son vieux blanc, ce n'est pas mon style. Mais le jour où le plus que frère te prend pour un moins que rien, ou que la plus que sœur te fait ça plus que ta sœur, il ou elle comprendra alors qu'on subit ses frères et sœurs, mais qu'on choisit ses amis. À vendredi.
À vendredi prochain. Merci Charlotte Ntamack. Merci aussi à Pauline Berthélémy à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin. Restez avec nous dans une minute, le journal.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
RFI doit-elle quitter X ? Après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, avec le soutien actif de ce réseau social très polémique, le débat anime notre rédaction. Plusieurs médias dans le monde ont déjà pris la décision de partir, et nous ?
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Omar Ba, peintre sénégalais qui signe 40 fresques pour illustrer le conte peul Kaïdara d'Amadou Empateba. Voyage au pays du grandiose et des pinceaux qui naviguent entre Dakar et Genève, l'art abstrait et figuratif, les fables de La Fontaine et la mystique peul.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur rfi.fr.